je retourne. Alors, ce matin, c'est un petit peu particulier, puisque, comme vous l'avez vu, on a eu des gens qui ont décidé de s'engager avec Jésus. Et puis, en même temps, on a des enfants parmi nous, puisque normalement, ils avaient un spectacle de prévu, une couple qui devait venir, donc l'épouse était malade. Et donc, du coup, ce matin, je vais tenter d'essayer de rejoindre toutes les populations de l'Église, des grands et petits. Donc, je vais faire ce que je peux. Mais en tout cas, je vais vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur pour ce message de ce matin. Et le titre de ce message, c'est une question que Jésus va poser. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? On fait le tour dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 16, verset 13 à 17. L'Évangile, c'est quoi? Ce sont des témoins oculaires qui ont raconté ce qu'ils ont vu de la vie de Jésus et l'ont compilé dans des livres qu'on appelle l'Évangile. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus arrivant dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je entre les hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ?» leur dit-il. Simon Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé toi, mais c'est le Père céleste. » À travers de ces quelques versets, nous voyons que Jésus est entouré de ses disciples et il leur pose cette question, « Qui dites-vous que je suis ?» Je pense que cette question posée par Jésus, le concernant, est encore pertinente pour nous aujourd'hui. Qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour toi? De nombreuses personnes se posent ou se posent cette question concernant Jésus. On sait tous que Jésus a influencé fortement, voire bouleversé même notre monde. On le voit par notre calendrier, on le voit par nos fêtes qui sont établies et ont pour point de départ Jésus-Christ. Plus de 2000 ans après sa venue sur Terre, notre société est encore impactée, notre société est encore bouleversée par son message. De nombreuses croix dans le village d'Alsace en témoignent. Mais pour nous personnellement, qui est-il? Quel regard avons-nous sur Jésus? Nous voyons dans ce passage que nous voulons dire que les disciples lui ont répondu qu'il était pour plusieurs un prophète. Un prophète, c'est quoi? C'est un porte-parole de Dieu, quelqu'un qui parlait de la part de Dieu, qui parlait pour Dieu, un messager de Dieu. Ils étaient des prédicateurs qui annonçaient et appelaient le peuple à revenir à Dieu de tout leur cœur, à placer leur confiance et à lui obéir. L'opinion générale voyait en Jésus un des grands prophètes, un des grands prophètes du peuple d'Israël, comme revenu à la vie. C'est pour ça qu'ils ont évoqué des gens, des prophètes comme Élie ou Jérémie. Cela venait d'une attente du peuple d'un nouveau grand prophète à l'instar de Moïse. Et on voit ça dans le livre du Deutéronome qui nous parle de cette promesse. Deutéronome 18:18 dit « Je ferai surgir pour eux du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Et Dieu s'adresse à Moïse. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » De nos jours, si on fait un sondage un petit peu autour de nous, nous pouvons voir que les opinions divergent aussi concernant Jésus. Certains vont dire que Jésus était un homme bon, Jésus était un homme de bien, un grand penseur ayant dit des vérités profondes. Pour d'autres, il est un imposteur, il est un fou. Pour d'autres encore, il est un grand prophète. Mais pour nous, qui est-il? C'est intéressant d'entendre les gens dire que Jésus est un grand penseur, ou qu'il est un philosophe, mais qu'il n'est pas Dieu. Vous avez déjà entendu ça au cours de nous. Et moi, oui, Jésus a dit des vérités, des choses importantes, mais il n'est pas Dieu. C'est intéressant, pourquoi? Parce que tout ce que nous savons de Jésus est révélé par la Bible. Tout ce que nous savons de qui est Jésus, c'est la Bible qui nous dit. Et lorsque Jésus parle de lui-même dans la Bible, il ne laisse pas de doute. Dans notre texte, il se nomme « Fils de l'homme ». Et il le fait dans les évangiles à plus de 65 reprises. Il en parle à certains endroits de cette notion de fils de l'homme pour souligner son autorité. Ailleurs, on le voit pour parler de son rejet de la part des hommes. On le voit aussi en parlant du fameux le Fils de l'homme. Plusieurs théologiens disent que cette expression était dans la pensée juive de l'époque, c'est-à-dire dans la culture de l'époque, un titre pour un libérateur céleste, préexistant, qui vient sur terre avec le glorieux royaume de Dieu. Si Jésus était ce qu'il disait être, le sauveur divin. Pardon, soit Jésus était ce qu'il disait être le sauveur divin, soit il était un fou et un menteur. On ne peut pas être les deux en même temps. Un apologète, Josh McDowell, qui a passé au départ de sa vie à tout faire pour démontrer que Jésus n'était pas celui qu'il disait être, a finalement, en méditant la parole, reconnu que Jésus était son sauveur. Et il va dire la phrase suivante, un homme qui serait simplement un homme et qui dirait le genre de choses que Jésus a dites ne serait pas un grand maître de moralité. Il serait soit un fou, sur le même plan qu'un homme disant qu'il est un homme penché, soit le diable de l'enfer. Et il nous invite à cette réflexion, il nous dit, vous devez choisir. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il était fou ou pire encore. Soit il était fou ou pire encore. Certains veulent retenir les belles choses que Jésus a pu dire dans la Bible, mais ils veulent rejeter le surnaturel de la Bible. Et je me pose la question, sur quelle base peut-on retenir certaines choses de la Bible et en rejeter d'autres? Sur quelle base on peut faire ça? Je me pose la question ce matin, pour nous, qui est-il? Regardons la réponse que Pierre a donnée à Jésus face à cette question. Et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qui a pu pousser Pierre à répondre de cette manière à Jésus? Et on voit dans la réponse spontanée de Pierre un vécu et une réalité. Vous savez, généralement, lorsqu'on affirme quelque chose, c'est que nous sommes convaincus de ce que nous disons. Je ne sais pas si vous avez entendu les baptisés tout à l'heure, parce que vous croyez que Jésus est votre sauveur. Non, c'était un oui franc, un oui ferme. Vous savez, si vous demandez un thé à cette famille au chocolat, mon oui va être sans équivoque. Je ne parle même pas d'autre chose, mais en tout cas, le chocolat, mon lui, est sans équivoque. C'est une réalité pour Pierre que Jésus était le Christ, que Jésus était le Fils de Dieu. Le terme Christ en grec signifie celui qui est choisi. Jésus était le choix de Dieu. Jésus est toujours le choix de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus dira : je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ne laisse pas d'autres opportunités. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus. Pierre était convaincu de ce qu'il disait parce qu'il a appris à connaître Jésus. En étant à son contact, en évoluant à ses côtés, il a vu Jésus parler, il a entendu Jésus parler, mais il a aussi vu Jésus agir dans différentes situations que nous allons regarder ce matin. Et le premier point ce matin, c'est que Jésus est plus fort que les circonstances. Évangile de Luc 5, 4 à 7, quand il finit de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Pierre était un pécheur de métier. Dans cette histoire, on le voit en train de nettoyer ses filets après une nuit de pêche infructueuse où il n'avait rien attrapé. Vous savez, j'aime aller à la pêche, comme passion. Et il m'est arrivé plusieurs fois de rentrer d'une journée complète de pêche sans avoir eu une seule touche. Et je peux vous dire que quand on rentre au soir, on n'a pas envie de nettoyer les cannes et de nettoyer les autres. On a envie de tout balancer dans le garage et dire « j'y touche plus ». Alors imaginez pour Pierre, c'est son métier, c'est son gagne-pain. Il est en train de prendre soin du matériel avec lequel il travaille. Et lorsque Jésus s'approche de lui et lui demande de s'éloigner du village, d'aller en pleine eau et jeter son filet et de se demander mais qu'est-ce qu'il y a sur lui. Pierre, en péché expérimenté, lui dit à Jésus, mais nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre et toi, tu nous demandes de jeter le filet. Pierre va finir par obéir, il va jeter le filet et là le miracle se produit. La pêche est miraculeuse au point que le texte nous dit que le filet se repère et que les barques s'enfoncent. Imaginez ce qui se passe dans la tête de Pierre à ce moment-là. Il y a un charpentier qui ne connaît rien à la pêche, qui explique à lui, le pêcheur professionnel, et c'est René, de jeter le filet à un endroit, et en plus, c'est jackpot à la fin. Le sac est rempli. À ce moment-là, Pierre se rend compte que Jésus n'est pas un simple homme, mais qu'il est bien plus que ça. Il est bien plus que charpentier. Face à la grandeur de Jésus, Pierre reconnaît qu'il n'est pas digne de marcher avec lui parce qu'il est pécheur. Le péché, c'est manquer le but de Dieu, c'est manquer la cible, c'est transgresser les lois de Dieu, c'est finalement être éloigné de Dieu. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus va l'inviter à ne pas avoir peur, car il va faire de lui un homme nouveau. Il va faire de lui un témoin de Jésus. Il va dire, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Tu vas être celui qui va être utilisé par moi-même pour amener des autres hommes et femmes à l'évangile. Exactement comme vous. Vous avez pris un engagement avec Jésus ce matin, et Jésus a fait de vous des hommes et des femmes nouvelles. Porteurs, porteuses d'un message d'espérance. Jésus fait encore la différence dans les vies en 2018. Amen. Jésus, dans cette expérience, voit que Jésus est maître des circonstances. Des choses qui semblent impossibles aux hommes, Jésus les rend possibles. Il va faire également l'expérience d'une vie sans Jésus, d'une vie de pécheur dans les deux sens du terme. Jésus l'emmène avec lui dans une nouvelle vie. Deuxième point ce matin, c'est que Pierre a vu Jésus plus puissant que la maladie. Matthieu 8, 14 à 15, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le fit. Dans cette situation, Pierre voit comment Jésus est plus puissant que la maladie. Alors que sa belle-mère est malade, alitée, qu'elle ne peut plus se lever, saisie par cette fièvre terrible qui l'empêchait de pouvoir bouger, il voit comment Jésus touche cette femme et que cette dernière est instantanée. La Bible dit que Jésus est le même hier qu'aujourd'hui et éternel. Ce Dieu qui a fait des miracles dans la Bible fait encore des miracles aujourd'hui. Et en tant que croyants, nous croyons que lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, lorsque nous le prions d'intervenir, il est capable de le faire. La Bible nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Nous croyons à l'efficacité de la prière. Vous savez, c'est le résultat de la prière de ma mère et de ma sœur, alors que je m'en foutais dans une vie complètement perdue. Elle me disait ce que Jésus voulait faire pour moi, mais elle se tenait sur leurs genoux pour que Jésus me rencontre. Jésus est capable de changer de cœur et de situation. Le cœur le plus fermé peut être ouvert par l'amour de Jésus lorsqu'il vient nous percuter et lorsque l'amour de Jésus vient nous rencontrer. Amen. Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Il est plus fort que la maladie. Mais Pierre va encore voir que Jésus est plus fort que les lois de la physique. Matthieu 14, 25 à 31. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'employa et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cet épisode marquant du cheminement de Pierre avec Jésus se passe alors qu'ils sont en bateau, en pleine mer, que la tempête se lève, C'est Jésus qui leur avait demandé de le précéder sur ce lac. Et alors que ces derniers traversent cette mer, Jésus les rejoint marchant sur l'eau. Les disciples prennent peur, sont effrayés, croyant même voir un fantôme. Et Jésus va leur dire, n'ayez pas peur. À ce moment, Pierre demande à Jésus, comme signe de sa présence, de lui permettre de pouvoir marcher sur l'eau. Et Jésus va l'inviter à venir. Le miracle va prendre place, Pierre va marcher sur l'eau. Mais après quelques pas terrorisés par le déchaînement des flots, des vents, Pierre va prendre peur et commencer à couler. Et lorsque dans sa panique, il va crier Seigneur, sauve-moi, Jésus va prendre la main et le libérer. Jésus est encore cette main tendue qui nous secoue au sein de nos difficultés, au sein de nos tempêtes. Vous savez, la peur a cette capacité de nous paralyser. Et la foi voit plus loin. La foi voit plus loin parce que la foi place sa confiance non pas en nous-mêmes, mais dans celui qui peut tout. Mais même lorsque nous doutons, il y a ce Dieu qui va tenir à nos côtés encore aujourd'hui, se mettre à nos côtés et nous tendre la main pour nous secourir. Il est ce Dieu qui change les vies encore aujourd'hui. Pierre, dans cette situation, voit ce Jésus qui est au-delà des lois de la physique, au-delà des éléments. Et Pierre va voir une autre facette de Jésus. C'est ce Jésus qui révèle et occupe ce qui suit l'homme. Matthieu 15, 10 à 11, Jésus appelle la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Dans cette histoire, Jésus prie le verset, les hommes religieux viennent auprès de Jésus et sont scandalisés parce que ses disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Ils étaient donc, selon les religieux, figés ou impurs. Alors ici, il n'est pas question d'hygiène, mais c'est important de se laver les mains avant de manger. Il était question ici d'un rituel religieux qui n'était même pas dans les lois de Moïse, mais qui était le résultat d'un rite oral, d'une tradition. Jésus explique que ce qui fait qu'un homme est figé n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais ce qui en sort. À ce moment, Pierre va demander à Jésus l'explication de cette illustration parce qu'il ne comprend pas. Jésus va répondre que ce qui fait qu'il n'est pas pur devant Dieu n'est pas ce qui entre en lui, mais à cause de tout ce qui sort de son cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par nature. Par nature, nous sommes corrompus. Par nature, nous sommes mauvais. Nous sommes éliminés de mauvaises intentions. Jésus va encore détailler que toutes les pensées mauvaises de l'homme, toutes ces mauvaises actions, les vols, les mensonges, les calomnies, les meurtres, les adultères naissent du cœur de l'homme. Il explique finalement que c'est le cœur de l'homme qui a besoin d'être nettoyé. Non seulement les mains, non seulement les mains pour être pur devant Dieu. Ici, Pierre comprend que Jésus est venu pour identifier le vrai problème de l'humanité qui est le péché et de le régler. Le péché représente tous les choix que nous faisons en dehors de ce que Dieu veut, en dehors de ce que Dieu dit dans sa parole. Toutes les fois où je cherche à être le petit Dieu de ma vie, à dire, ben, pour ma vie, c'est ça qui sera bon, c'est ça qui sera bon. C'est ce qu'on appelle le péché, c'est chercher à faire des choix en dehors de ce que Dieu veut. On va conclure ce matin. Les paroles et les actes de Jésus ont permis à Pierre de comprendre que Jésus n'était pas un simple homme, mais qu'il était celui choisi par Dieu pour sauver l'humanité. Les Juifs et les Samaritains attendaient le Christ, conformément aux prophéties de l'Ancien Testament. Ésaïe 53, c'est lui qui les sauverait et les délivrerait. Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait annoncé plus de 800 ans auparavant. Il a guéri les malades, il a porté nos péchés à la croix pour que nous puissions être sauvés. Vers cette lecture dans Ésaïe 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 800 ans avant, le prophète décrivait ce que Jésus allait accomplir. Dans le détail près. Jésus, le Fils de Dieu, a été une réalité pour Pierre et il l'a été pour bien des hommes et des femmes jusqu'à aujourd'hui. Jésus change vie. Jean 3,16 nous dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir, le soupir de Dieu ce matin, c'est qu'au milieu de nous, des gens puissent être réconciliés avec le Seigneur. Jésus a payé le prix fort. On l'a entendu ce matin. On a de la valeur. On a de la valeur. Jésus a été, s'est dépouillé de lui-même pour que nous puissions être réconciliés avec le Seigneur. Nous avons de la valeur. Il a été prêt à se dépouiller de lui-même. Tout ça, c'est en vrai. Jésus l'a fait pour sa création. Nous sommes le joyau de sa création. Et il désire cette relation avec nous. Il désire cette réconciliation avec chacun d'entre nous. Il est possible pour nous aujourd'hui de faire cette rencontre. Jésus est vivant et il intervient encore aujourd'hui. Il veut nous faire réaliser que nous sommes loin de lui et il veut nous sauver. Il peut guérir nos cœurs, il peut guérir nos corps, il peut nous faire entrer dans une vie épanouie et centrée sur l'essentiel, sa personne. Sa personne. Tel que nous sommes ce matin, peu importe l'arrière-plan que nous avons, nous pouvons venir à lui et lui confier nos vies. Nous pouvons accepter ce qu'il a accompli pour nous et nous pouvons décider de le suivre. Amen. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux. Vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est pas grave. Juste par mesure de respect, j'aimerais qu'on puisse terminer par la prière. Seigneur, nous voulons répondre encore ce matin à cette question. Qui es-tu personnellement? Seigneur, tu es celui qui a offert ta vie. Tu es celui qui change de vie encore aujourd'hui et je voudrais prier ce matin. Peut-être pour des gens qui sont questionnés dans leur cœur, questionnés dans leur être intérieur. Seigneur, je te prie de te révéler ce matin à leur vie. Tu aussi peut-être ceux qui sont attaqués dans leur corps, attaqués peut-être dans une situation familiale difficile. Tu es capable, Seigneur. Seigneur, je te prie pour que les peurs tombent ce matin dans ce monde. Si des gens sont saisis par des craintes qui les paralysent, qui les terrorisent et les empêchent d'avancer, je te prie, Seigneur, pour qu'un élan de foi, Seigneur, vienne dans ce monde ce matin. Que tu puisses encourager et fortifier celui qui est abattu. Seigneur, tu nous invites à ne pas craindre. On l'a lu ce matin les 365 fois dans la Bible. Tu nous invites à ne pas avoir peur, mais à placer notre confiance en toi. Tu es celui qui tient nos vies dans ta main. Et nous voulons encore nous abandonner entre tes mains ce matin. Merci de venir toucher. Merci de venir encourager. Merci de venir fortifier dans ce lieu. Celui ou celle qui est fatigué. Celui ou celle qui a besoin d'espoir. Jésus, tu es l'espoir du monde. Tu es la solution envoyée par Dieu. Tu es le choix du Père pour notre salut, pour notre délivrance, pour notre guérison. Viens et touche encore. Viens et vise le Père. Au nom puissant de Jésus. Amen.